Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le cinéma, cet art qui a l'étrange pouvoir de vous plonger dans d'autres vies, d'autres circonstances, qui vous fait voyager à travers le temps et l'espace, une sorte de fenêtre ouverte sur d'autres réalités et notre monde intérieur, comme la littérature, me direz-vous, voire la musique. Certes, mais le cinéma, en plus, souvent, est une aventure collective avec des proches ou des inconnus, une sorte de métaphore grandeur nature de l'aventure que nous vivons sur cette terre. Aujourd'hui, avec nos messieurs cinéma de Radio Présence, ou presque, nous vous invitons une fois encore à toucher du doigt cette aventure qui bat dans la vie de chacun pour l'assumer mieux ou encore la réveiller. Cette émission Vivante Église ce matin, donc le grand écran de Vivante Église, rendez-vous désormais régulier, mensuel, avec autour du plateau Louis-Marie Solaire, donc le premier monsieur cinéma de Radio Présence, producteur de l'émission Louvreuse. N'oubliez pas Louvreuse, pardon, bonjour Louis-Marie.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Et Paul Dima qui est en train de devenir l'autre monsieur cinéma de la radio, sans vouloir faire de la concurrence à Louis-Marie Solaire, monsieur cinéma on va dire au Cotopaïs. Ce centre de formation, d'accompagnement et autres jésuites et animateurs de retraite cinéma. Bonjour Paul.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous.
Et tous deux, on le redira au long de cette émission, qui sont les deux animateurs donc, de Ciné-Parole, qui est ce ciné-club qui existe à Toulouse en lien avec le cinéma L'ABC, ce cinéma d'art et d'essai, où pour rappel, si vous ne le savez pas encore, chaque mois, à la faveur d'un film à l'affiche, il propose un temps de partage, de commentaires, de réflexion à la fin de la projection et il faut y aller car c'est évidemment très riche. Alors, comme chaque mois, on a trois films à l'affiche. Enfin, on a trois films au menu, pardon. Le premier était à l'affiche ou presque. On a choisi exceptionnellement un film que vous avez vu dans le cadre de Ciné-Parole. C'est Cessez le feu. Voilà, je donne le menu. Hein. Le deuxième, c'est dit être un chef-d'œuvre humaniste. On a choisi Gran Torino, film de Clint Eastwood, et le dernier chef-d'œuvre, on va dire spirituel ou religieux, on a choisi le film Mission, que probablement un certain nombre d'auditeurs connaissent. Voilà, pour le coup, vraiment, enfin, Gran Torino aussi, hein, mais chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre. On va commencer avec Cessez le feu, et tout de suite, je vous propose d'écouter tout simplement la bande-annonce du film pour se plonger dans l'ambiance.
Des guerres bavardes.
4 ans là-bas, ça se raconte pas comme ça.
Et tout ça, ça vient d'où ?
De la région de Bonny.
Et vous en aurez d'autres ?
Non.
Vous n'en tournez pas là-bas ?
Tu veux tirer ? Vas-y. Claire.
Faut le prendre comme il est, ton frère.
Alors, il n'y a rien à faire.
Le plus important, c'est qu'il soit en vie.
Heureusement qu'il y a ses cours. Et puis Madeleine.
Il paraît qu'elle est jolie. Jolie.
Mademoiselle !
Il va retrouver la parole. C'est juste une question de temps.
Ah oui?
Bien sûr.
On m'entend rayer, moi aussi.
Ça dépend de vous.
Tu voudrais pas venir en Afrique avec moi? Tu verras des choses dont t'as pas idée.
Je te connais à peine.
Où la France? On monte au feu!
Attends, frère. Vous savez, Marcel, je le comprends.
Soldat! Allez, retourne dans ta tranchée, vieux.
Il aurait fallu qu'on vienne comment ? Les sourires aux lèvres ? Comme si on rentrait d'une partie de campagne ?
Je sais très bien ce que vous avez vécu. Je l'ai vu de près.
Qu'est-ce que t'as vu ? Tu y étais dans la tranchée ?
Personne sait. Personne ne peut savoir.
Pourquoi tu lui fais pas ta demande ?
Je viens avec toi.
Voilà, Cessez le feu. Donc, film de Emmanuel Courcol, c'est comme ça qu'on dit, Louis-Marie ?
Oui, c'est Emmanuel Courcol, c'est son premier long métrage. On le connaît surtout en tant que.
Alors, attendez juste, avant que
en tant que scénariste.
Avant que vous nous racontiez Emmanuel Courcol, je vais essayer de résumer l'histoire parce que la bande-annonce ne suffit pas forcément à plonger dedans. Et puis, je vous laisserai compléter, comme le veut la coutume, histoire de pas perdre tout le monde. Donc, c'est, on va dire, le personnage principal est interprété par Romain Duris, un certain Georges Lafont. C'est au lendemain de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, le début du film...
Cinq ans après
la Première Guerre mondiale. Donc il passe du temps en Afrique, comme pour fuir les mauvais souvenirs, les souvenirs atroces de cette Première Guerre. Et puis après, il revient en France, où il retrouve donc son frère Marcel. Son frère Marcel. Il retrouve sa mère. Et puis, il y a des femmes dans cette intrigue qui vont s'inviter. Son frère qui est lui-même un traumatisé de guerre. C'est donc un film sur la Première Guerre mondiale, même si en fait il y a très peu de scènes de la Première Guerre mondiale. Comment vous compléteriez peut-être juste la présentation du film, Louis-Marie, avant qu'on parle du reste ?
Eh bien, Emmanuel Courcol a décidé de prendre un angle qu'on a peu utilisé pour parler de cette guerre qu'on a appelée la Première Guerre moderne, celle qui a fait le plus de morts.
La Grande Guerre.
La Grande Guerre, le plus de morts, c'est là où on a fait malheureusement des essais de nouvelles armes qui ont provoqué la mort de beaucoup de militaires et aussi de civils. Mais ici, au lieu de prendre l'angle des militaires qui reviennent amochés, souvenez des gueules cassées, on avait même fait une loterie à l'époque pour pouvoir les soigner, la loterie des gueules cassées, on achetait des billets de loterie qui finançaient justement les soins pour ces soldats. Donc l'angle qu'il prend, c'est celui de psychologie. Comment arrive-t-on à se remettre du traumatisme qu'on a vécu dans les tranchées ? Et de la guerre, on en verra peu, juste le début du film. Le début du film est admirable, c'est-à-dire qu'on est, au-dessus, on voit en plongée...
Oui, on se croirait dans Google Earth, c'est une espèce de plongée dans les tranchées.
On est en plongée. Au début même, on comprend pas trop bien ce qui se passe.
On est au-dessus de la France, on va dire, au début, et puis après, ça zoome sur une tranchée.
On entend des bruits, on voit des espèces de nuages, et on comprend au fur et à mesure, parce qu'à ce moment-là, la caméra plonge, et on comprend que c'est la fumée de la bataille, des canons. Et la caméra, une fois qu'elle l'a plongée sur la tranchée, elle rentre dans la tranchée et elle le suit un groupe de militaires.
Il y a une espèce de long plan séquence.
C'est un plan séquence, voilà. Exactement. Ouais. Et on reste dans la tranchée pendant tout ce plan séquence jusqu'au moment fatidique où un coup de canon, une explosion va bloquer l'avancée de ces militaires.
Voilà,
C'est ça qu'on retiendra de la guerre. Ça et aussi après... En Afrique, quand Diofo raconte la guerre, aux gens des villages dans lesquels il s'arrête, lui et Georges Lafont, le militaire, où il parle de la guerre et il la mime. Et de la guerre, on verra juste l'introduction et ces moments où Diofo la mime.
Diofo, c'est donc le tirailleur sénégalais
qui accompagne le capitaine Lafont.
Le capitaine dans toute la première partie en Afrique. Alors, il y a plein de choses à dire autour de ce film. Peut-être d'abord, justement, les tirailleurs sénégalais. Parce que c'est vrai que dans les films, vous allez peut-être nous les citer, il y a eu beaucoup de films faits, évidemment, sur la Première Guerre mondiale. Moi, je n'avais pas souvenir d'une espèce de voyage comme ça dans le temps, où en fait, il y a dans toute la première partie, ils vont donc de village en village pour expliquer en fait aux populations des colonies françaises ce qu'a été la Première Guerre mondiale, et donc ils miment les scènes de guerre, et puis ils vont aussi expliquer aux parents qui certains ont perdu des enfants, parce que j'ai cherché les chiffres comme ça, des tirailleurs sénégalais, il y en avait 130, enfin ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire les gens des colonies qui ont été mobilisés sous le drapeau pendant la première guerre mondiale, il y en avait quand même 135 000 dans les tranchées, il y a eu 30 000 soldats qui sont morts. Voilà, alors ça c'est peut-être un autre aspect de la Première Guerre dont on n'entend pas souvent parler. Est-ce que vous avez un commentaire sur ce sujet, Paul Dima ?
Oui, tout à fait. Ça a été peu souvent abordé, y compris au cinéma. Et on voit bien comment Diofo, qui est donc pas un aide de camp, mais un soldat sous la conduite du capitaine Lafont, transforme cette boucherie en épopée.
Oui.
Alors, il passe des vues fixes à éclairer à la bougie, où il y a des soldats napoléoniens qui sont présentés comme les soldats de la Première Guerre mondiale. Et pour les Africains, c'est aussi crédible que de voir des soldats de 14-18. Et il fait toute une épopée avec le côté magique en même temps. Il a une tour Eiffel autour du cou et il montre à tous ses congénères africains que celui qui a la tour Eiffel, il ne peut pas mourir. C'est un talisman, c'est voilà, ce qui fera sa perte aussi, parce que quelqu'un veut lui voler son talisman et il le tue pour...
Une tour Eiffel de pacotille.
Voilà.
En tout cas, voilà, ça c'est déjà... Enfin, je ne sais pas si le film est fait pour d'abord raconter la Première Guerre, comme disait Louis-Marie, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant de voir ce volet, parce qu'à un moment, on voit comment dire, un des parents, comme ça, sénégalais, qui dit « Pourquoi la France m'a volé mon fils, quelque part ?» L'autre chose, pour les spécialistes que vous êtes, Louis-Marie, vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de films sur la Première Guerre. Est-ce que c'est pas un défi aujourd'hui de faire un film sur la Première Guerre mondiale quand, sauf erreur de ma part, en fait, il n'y a plus de poilus et quand tout ça, c'est maintenant pour la jeune génération qui arrive, c'est même plus l'arrière-grand-père, c'est presque l'arrière-arrière-grand-père. Et pourtant, ça fait partie de l'histoire de France.
Bah, il se trouve qu'en ce moment, on est en train de commémorer les 100 ans de cette guerre. Hein, on a commémoré en 2014 les 100 ans du début et on va arriver à la commémoration des 100 ans de la fin. Des 100 ans de la fin. Entre-temps, on a eu droit à la commémoration de la bataille de Verdun, qui a été une des plus grandes et des plus meurtrières. Enfin, y a-t-il eu une bataille de la guerre de 14 qui n'a pas été meurtrière? Je ne crois pas. Mais en tout cas...
Aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose.
Non, voilà.
Sauf si on va se promener dans les Ardennes et si on est attentif aux monuments morts dans chaque village, c'est comme des fantômes, presque.
En choisissant cet angle, c'est-à-dire le traumatisme... le stress post-traumatique, je vais y arriver, le stress post-traumatique... dont traite le film d'Emmanuel Courcol peut s'appliquer à n'importe quel conflit. Évidemment, la différence, c'est l'époque. Mais on est à un moment, en 1923, où on a envie d'oublier cette guerre, où on s'enivre, où il y a des gens qui ont gagné de l'argent et qui le dépensent.
On voit, il y a des scènes d'ailleurs des années folles.
Oui, et c'est ça, on est en 1923, c'est les années folles. Il y a des gens qu'on appelle les planqués. Vous vous souvenez aussi qu'il y avait la coupe de cheveux, c'est se coiffer à la planquée. C'est-à-dire qu'on se coiffait en arrière de façon à ce que les cheveux soient le plus loin du front. Donc on était coiffé à la planquée. Et c'est ça que montre aussi le film de Courcol et comment ces hommes, eux qui étaient dans les tranchées, n'arrivent pas à s'intégrer à cette société. Ils ne comprennent pas. Ils sont complètement à côté. Alors un a supporté le traumatisme en partant, en allant loin, en allant en Afrique, et l'autre s'est emmuré. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'ils avaient un troisième frère.
L'autre, c'est le frère, Marcel.
Marcel, et
ils avaient muet.
Et un troisième frère qui, lui, est mort au combat.
On va faire une première pause. Donc, c'était Cessez le feu, film d'Emmanuel Courcol, sorti en 2016, qui avait donc été à l'affiche de Ciné-Parole, puisque cette fois-ci, nous n'annonçons pas le prochain film de Ciné-Parole. On fait une première pause et on vous retrouve tout de suite après. Thank you.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran de Vivante Église, c'est donc le rendez-vous de ce matin, pour vous chers auditeurs, avec autour du plateau Louis-Marie Soler, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreux sur notre antenne, et Paul Dima, monsieur cinéma des Côtes aux Pays, ce centre spirituel jésuite et animateur de retraite cinéma, tous deux animateurs des ciné-paroles, ce ciné-club, on dit ciné-club, oui, ciné-club proposé à l'ABC une fois par mois sur un film à l'affiche. Deuxième film qu'on a choisi, donc, dans la catégorie, j'ai nommé chef-d'œuvre humaniste, et Dieu sait si c'en est un, Gran Torino. Voilà, film donc de Clint Eastwood, que probablement beaucoup de gens ont vu, mais peut-être pas tous. Je vais essayer de résumer l'histoire, puisque là, on va pas passer la bande-annonce. Donc, c'est un certain Walt Kowalski, qui est un Polonais-américain, qui est joué par Clint Eastwood. Lui-même, qui est un retraité, qui est un ancien de la guerre de Corée, retraité des usines Ford, qui vit dans sa banlieue, dans sa maison américaine, qu'il ne faut pas emmerder. On va voir que c'est assez haut en couleur, donc on peut se le permettre. Et puis c'est vraiment l'image du film. Qui vit dans une banlieue qui, à son goût, a été envahie, gangrénée par des minorités ethniques qu'il n'apprécie pas forcément, en l'occurrence d'origine asiatique. Et ses voisins, avec qui il ne souhaite pas particulièrement se lier, ont des ennuis extrêmement importants avec un gang local, le gang des Hmong, dont deux jeunes, Su et Tao. Voilà, il se noue toute une intrigue autour de cet homme qui nous fait rire à l'écran, mais qui est quand même globalement extrêmement antipathique, et cette jeune famille. Alors, on va quand même peut-être essayer de passer un extrait, parce que ça va quand même nous plonger dedans. Je vais juste introduire cette scène. C'est donc évidemment pas la bande-annonce, comme je l'ai dit. Ces jeunes se font, largement emmerdés par ce gang, et c'est peu dire. Et là, c'est une scène, en fait, où on le voit dans sa Ford. Alors, je sais pas si c'est une Ford, là, peu importe. Il débarque
parce qu'il vient
en aide à Su.
Il a une Ford, la fameuse Gran Torino, mais c'est pas avec celle-là
qu'il
roule.
C'est pas avec celle-là, voilà. Donc, il arrive au milieu d'un moment où Su commence à se faire presque agresser par ces jeunes de banlieue américaine.
Tu crois peut-être que t'es marrante, c'est ça?
Oh, hein? Merde. Elle en a dedans.
Quoi? Tu vas me taper dessus? Comme ça, au moins, le portrait sera complet.
Eh, tu devrais garder ta pute en laisse, hein. Mets-lui un collier étrangleur et tire un bon coup sur cette salope.
Bien sûr, encore un autre de vos stéréotypes.
Ouais.
Tu m'as traité de salope et de pute dans la même phrase.
Quoi? Oh. Pute et cinglée? C'est comme ça que je les aime.
Je te laisse ta pute.
Tu restes avec moi.
Merde. Tu sais pas quand t'arrêter, toi.
Il faut
toi,
lui donner une leçon, y'a que ça qu'elle comprendra.
Lâchez-moi, ça suffit.
T'es une sale pute. Vas-y, Duke.
Non,
toi, tu restes ici, je dis.
Okay.
Tu restes ici.
Qu'est-ce que tu regardes, vieux débris? Hein?
Qu'est-ce que vous lui voulez, les négros?
Négros?
Quoi?
Fiche-moi le camp d'ici, sale blanc, sinon tu risques d'avoir des ennuis. C'est un conseil que je te donne. Fais chier, ce chenal.
Vous avez remarqué comme parfois on peut tomber sur le genre de personne qu'il vaut mieux pas faire chier. C'est moi.
T'es complètement cinglé, le vieux. Allez, débarrasse.
Fous-moi le camp d'ici, sale blanc, avant que je te botte ton vieux cul ratatiné.
Mais il débloque cet enculé, il lui manque des morceaux.
T'es malade?
Quoi?
Il a pas toute sa tête, ce vieux débris. Fais quelque chose, Duke, il est malade. Qu'est-ce qui lui prend?
Monte dans le camion.
Le fout le camp, cette pute.
Il est complètement malade, cet enculé. Il a un problème.
Il est cinglé.
Non, calme-toi, hein, grand-père. Fais pas de conneries.
Ferme ta putain de gueule. Vous êtes pas foutu d'écouter? Allez, va dans le camion.
Voilà, donc c'est un extrait, on va dire, haut en couleur, mais à l'image du film. J'aimerais juste qu'on dise un mot, justement, de ce qui peut être à apparaître, peut-être pour certains auditeurs, ça les choque, comme de la vulgarité. Moi, je trouve qu'en fait, c'est un film très vrai, voilà, et ce langage, d'abord, c'est la réalité de ces banlieues, voilà, de cet homme qu'on imagine, mais la vulgarité a presque un rôle là-dedans. Qu'est-ce que vous diriez, Paul Dima, sur ce sujet?
Oui, c'est une parole engagée en même temps. C'est-à-dire que face aux truands qui sont là en train de d'exercer un chantage extrêmement violent sur des jeunes sans défense, ce vieux débris, comme disent les agresseurs, montre toute sa détermination à s'opposer à cette violence sauvage et mortifère. Et alors, il le fait avec truculence et avec force, mais en même temps, il montre qu'on ne fait pas n'importe quoi avec les autres.
Est-ce qu'on ne voit pas, évidemment, puisqu'on n'a pas l'image dans l'extrait, c'est que dans son camion, son pick-up, oui. Il a été chercher un fusil de chasse.
Il a été chercher un fusil de chasse. Et il va s'en servir, d'ailleurs, presque à plusieurs reprises. Enfin, en tout cas, non, il va menacer.
Il menace. C'est pour ça qu'on entend les jeunes noirs dire « Mais qu'est-ce qu'il fait, ce vieux débris ?» Et on sent qu'ils sont en train de reculer, quoi. Ils ont un peu peur, là.
Alors, juste si on recontextualise. Donc, j'ai essayé de résumer l'histoire. Qu'est-ce que vous ajouteriez, Louis-Marie ou Paul Dima? Peut-être Paul-Marie. Voilà.
Oui. Waouh. Eh bien, écoutez...
Louis-Marie, sur l'histoire, sans dévoiler la fin, évidemment, quoique on en parlera peut-être. Mais
Vous l'avez bien présenté. On peut ajouter, donc, que cette banlieue où il habite est une banlieue laborieuse. C'est une banlieue de classe, pas moyenne, c'est de classe ouvrière, mais une classe ouvrière qui a été complètement abandonnée parce qu'il faut penser qu'on est à Détroit. Mmh. Détroit qui a été longtemps la capitale de l'industrie automobile américaine et qui est maintenant, c'est la première fois qu'une municipalité a été déclarée en cessation de paiement. Mmh. Hein, ça fait quelques années, donc il n'y a plus rien. C'est-à-dire que dans le quartier où habite Walt Kowalski, incarné par Clint Eastwood, il n'y a plus tous ses copains. Avant, ses voisins, c'était les gens qui travaillaient avec lui à l'usine. C'était comme on a connu ici aussi, par exemple, pour les mines et d'autres entreprises où tous les ouvriers étaient logés autour de l'endroit où ils travaillaient. Là, il n'y a plus rien. Et les gens sont partis, soit ils ont vendu, ou ils ont essayé de vendre, mais ça n'a pas marché, soit ils sont décédés, soit ils sont partis dans des maisons de retraite. Et c'est pour ça qu'il y a une immigration asiatique qui vient, les fameux Hmong, qui sont eux, qui viennent d'un pays où ils sont persécutés par les Vietnamiens. Parce que c'est une minorité, les Hmong, je crois que c'est...
Peu importe, les Hmong.
Mais peu importe, je veux dire, ils sont maltraités par les Vietnamiens et ils sont là. Donc ils partent d'un pays où ils sont maltraités pour venir à un endroit où ils le sont aussi.
Alors je vais citer juste deux, trois critiques que j'ai piochées qui avaient été publiées à l'époque autour de ce film. Voilà, West France, Clint Eastwood, tout en humanité bouleversante, décline l'essentiel des thèmes qui ont fait son cinéma et prend son rang dans le panthéon des maîtres. Cahier des cinémas, la mise en scène d'Eastwood n'a probablement jamais paru si libre qu'ici, capable d'articuler sa puissance classique à la mise en place d'un espace mental d'une extraordinaire complexité, et on pourrait en citer d'autres. Bref, catégorie chef-d'œuvre. Pourquoi un chef-d'œuvre, Paul Dima, avant qu'on avance?
Parce qu'il y a une très très grande maîtrise de l'art cinématographique, et il y a la construction d'un récit à la fois épique et qui concerne chacun, c'est comment réagir face à la violence, comment accepter d'être compromis, de se compromettre plutôt dans la défense de celui qui est injustement agressé. Et je ne sais pas si on peut parler de la fin du film.
C'est un peu tôt, mais...
C'est un peu tôt, on en parlera tout à l'heure. Mais là, on voit que dans cette scène-là, ce que fait le personnage joué par Clint Eastwood, c'est qu'il rentre dans la bagarre, quoi. Il prend position, clairement, et il devient un ennemi à abattre. C'est-à-dire que lui qui voulait se tenir... loin de la société, défendre son petit terrain, qu'on touche pas à sa bagnole, qu'on touche pas à son précaré, enfin son jardin devant sa maison, là il se mouille, il prend des risques.
Alors justement, c'était peut-être le premier thème que je voulais aborder avec vous, je sais pas s'il va vous inspirer, mais moi qui suis moins cultivé que vous, surtout que vous deux, je ne dirais pas qui des deux est le plus cultivé en matière cinématographique, mais pour moi, on va dire spectateur moyen, Clint Eastwood et peut-être dans ce film, c'est comme une figure de virilité contemporaine, voilà. Et le film quand même parle du courage, d'un grand courage. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Je sais pas, il y en a pas tant que ça, des vraies figures de virilité, quoi. C'est-à-dire, c'est pas un bourrin, même si on a l'impression que ça l'est. Mais il a d'abord un grand courage, cet homme.
Mais c'est-à-dire...
Tant le personnage que Clint Eastwood, j'entendais.
Exactement. Hein. On peut faire le parallèle entre Clint Eastwood et le personnage qu'il interprète, son personnage. Parce que le risque avec un sujet pareil, c'est qu'on aurait pu attendre Eastwood faire qu'il propose quelque chose, une vengeance, comme il l'était quand il interprétait l'inspecteur, le fameux inspecteur Harry, le Dirty Harry, dont il a eu toutes les peines de se détacher de l'image, parce qu'on le cantonnait là-dedans comme un flic facho, expéditif. On peut aller revoir les films, qui tiennent très bien la route, mais son personnage est comme ça. Donc il est là. Alors il aurait pu aussi avoir donc cette œuvre vengeresse façon Dirty Harry, avec soutenue par une morale religieuse, parce qu'il y a un prêtre
on
là-dedans
après, ouais.
et qui aurait été complètement raté. Or c'est pas ça. Le deuxième écueil qu'il a évité, c'est de nous confronter à un personnage avec une évolution psychologique qui finit par aimer son prochain. Ça aurait foiré aussi, pardon, permettez-moi l'expression, parce que le personnage ne correspond pas à ça. Pourquoi ça marche ? Parce qu'on reste, et vous avez eu raison de le souligner, Emmanuel Pellat, c'est sa façon de parler. Il ne faut pas l'emmerder. Et à partir du moment où on l'emmerde, où il estime être emmerdé, alors là, bon, et il l'explique très bien. C'est-à-dire qu'il reste ce qu'il est.
Voilà. Il reste qu'il est, mais il fait du chemin, en fait, voilà, pendant le film.
Exactement, mais il ne trahit pas ce qu'il est depuis le début.
Alors, je vous propose d'en écouter un deuxième extrait, puisque c'est un film à multiples tiroirs, on va dire, et d'une grande profondeur. Moi, je trouve que c'est une espèce de conte métaphysique, mais je suis moins qualifié que vous, peut-être, pour parler de ces... pour trouver des titres à ces films. Cet deuxième extrait, puisqu'il y a donc aussi dans le film la mort de son épouse et les funérailles de son épouse, et un prêtre qui est comme mandaté par son épouse défunte pour prendre soin de lui et prendre soin de son âme. C'est pas la première rencontre avec ce jeune prêtre, c'est la deuxième, où on va dire ce prêtre revient à la charge et vient parler à Clint Eastwood de la miséricorde.
Bonjour Walt. Je vous l'ai déjà dit, jamais j'irai me confesser.
Pourquoi ne pas avoir appelé la police ?
Quoi ?
Je suis en contact avec des gangmongs et j'ai entendu parler de vos exploits d'hier soir. Pourquoi ne pas avoir appelé la police ?
Eh ben... j'avoue que j'ai prié pour qu'elle arrive, mais personne ne m'a répondu.
Mais à quoi vous pensiez ? Quelqu'un aurait pu se faire tuer. Vous avez mis en danger la vie d'autrui.
Quand ça commence à chauffer, il faut réagir en vitesse. Quand on se battait en Corée et qu'une centaine de bris dégueulards traversaient nos lignes, on n'appelait pas la police, on réagissait...
On n'est plus en Corée, monsieur Kowalski. J'ai beaucoup réfléchi à notre conversation sur la vie et la mort. Aux paroles que vous avez dites. Au fardeau du souvenir de toutes les horreurs qu'on vous a obligé à commettre. Ces souvenirs atroces gravés à jamais. Et vous débarrasser de ce fardeau, vous ferez, j'en suis sûr, le plus grand bien. La guerre génère des actes terribles. On reçoit l'ordre de tuer, on tue pour sauver sa vie ou sauver celle des autres. Vous avez vu juste, je n'ai pas la moindre expérience dans ce domaine. Mais je suis incollable, question pardon. Et j'ai vu tout un tas d'hommes qui, après avoir confessé leurs péchés et avoué leur culpabilité, ont échangé leur fardeau contre la paix de leur âme. Et des beaucoup plus solides que vous. Des hommes forcés à faire des choses épouvantables pendant la guerre et qui ont retrouvé le repos de l'esprit.
Je dois vous tirer mon chapeau, padre. Vous êtes venu avec des munitions cette fois.
Merci.
Et vous avez raison à propos d'une chose. Je parle de ces hommes plus solides que moi, qui ont réussi à se racheter une conscience. Eh bien, putain d'alléluia! Mais vous vous gourrez pour le plus important.
C'est-à-dire, monsieur Kowalski?
Ce qui hante le plus un homme, c'est ce qu'il a fait sans qu'on le lui ordonne.
Voilà cet extrait. Donc il y a comme un double fond dans ce film, je trouve que cet extrait l'illustre bien, avec cette espèce de dialogue visible ou invisible qui se noue avec ce prêtre, et qui est témoin en fait du chemin que fait Clint Eastwood, mais qui fait faire aussi du chemin à ce jeune prêtre. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet, Paul Dima ? Quand oui. Je parle de conte métaphysique, ça vous inspire ?
Oui, tout à fait. Et cette scène est tout à fait parlante à ce sujet-là, parce que ce prêtre, il a préparé son entretien, parce qu'il a affaire à un auditeur qui n'est pas muet, hein, et qui a du répondant. Et en même temps, quand il lui parle d'aveux et de confession et tout, il ne veut pas l'entendre, mais il n'empêche, qu'il lui dit « Vous passez à côté de l'essentiel. Vos histoires là, d'avouer ce qu'on a fait parce qu'on nous l'a commandé, c'est une chose, mais il y a bien pire que ça. » Et là, il apprend au prêtre...
C'est très profond, c'est remarquable.
Oui,
très profond.
Que le pire, c'est d'avouer que... On a fait sans avoir à obéir à un ordre.
Et d'ailleurs, il finira par se confesser ou par avouer ce qu'il a fait. Et il avoue, entre autres, certaines choses qui sont extrêmement émouvantes et qui sont peut-être pas, qui peuvent ne paraître pas aussi importantes justement que tous les actes de guerre qu'il a commis. Mais ça, on racontera peut-être pas le détail de l'affaire.
Ça fait partie du personnage. Louis-Marie
Dima, Paul Soler, non, pardon.
Mais non, mais c'est
Compte métaphysique, c'est la question, hein, parce que j'ai remarqué que vous répondiez pas toujours à la question.
Compte métaphysique.
En pro de la radio. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce dialogue qui se noue avec ce jeune prêtre?
Ah oui, ce dialogue avec le jeune prêtre est important dans l'évolution du personnage, parce que j'en reviens à mon propos, mon précédent propos, à savoir la façon dont Eastwood a traité l'histoire. Parce que, justement... ces différentes conversations qu'il a avec le prêtre sont déterminantes sur le choix qu'il va faire pour arranger les affaires de ses voisins. C'est-à-dire qu'on l'attend au tournant, Eastwood, parce qu'il va le régler comment, le problème dans ce quartier?
Parce que
à coup de fusil?
Mais il faut dire que le problème devient de pire en pire.
On est sur un véritable baril de poudre, hein. Passez-moi cette expression un peu désuète, mais il n'y a plus les mêmes voisins, je l'ai dit. Il y a différentes communautés, des monks d'un côté, des afro-américains de l'autre, des latinos, mais tous ces gens, ils vivent plus ensemble. C'est-à-dire qu'ils sont tous racistes les uns envers les autres. Hein, parce qu'il est raciste, le vieux Kowalski, mais les autres, ils ne sont pas mieux non plus. Hein. Alors comment arriver à concilier tout ça et apaiser les tensions et faire vivre tout le monde?
Alors justement, pour une fois, on va dévoiler la fin du film. Quoique, on va peut-être faire la même chose pour le dernier film. Je propose qu'on écoute presque la dernière scène. Le personnage, voilà que j'oublie son nom, Walt Kowalski, joué donc par Clint Eastwood, va rencontrer le gang ennemi après une scène absolument atroce où cette jeune Sue, mais c'est atroce mais ça arrive hélas, revient le visage complètement tuméfié dans sa famille et on comprend qu'elle a été victime de violences physiques mais pas que.
Il se passe quoi, mec ? Amenez-vous, le vieux est là.
Y a des salauds bridés là-dedans.
Je pensais pas que t'oserais montrer tes fesses.
Ta gueule, le bridé. J'ai rien à te dire, le nain de jardin. Saloperie d'enfoiré de trou du cul. Ouais, c'est ça. Allez-y, défendez-le, votre petit copain. Parce que c'est bien lui, ou un de cette bande qui a violé un membre de sa propre famille. Le même sang, bande d'enculés. Allez-y, cow-boy de pacotille, servez-vous de vos pistolets. Allez-y.
Et il est où, Tao? Ce pédé de fils de pute s'est dégonflé?
Tu lui fous la paix, à Tao. Tao n'a pas de temps à perdre avec vous.
Tu dis ça? Ouais. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant, le vieux? Hein? Qu'est-ce que tu fous, le délabré?
Vieux tordu.
Oh!
Vous seriez pas un peu nerveux?
Ta gueule, tu vas la fermer!
C'est toi qui vas la fermer! Vous avez du feu?
C'est quoi son délire?
Non. Moi... j'ai du feu. Salut Marie, pleine de grâce.
Extrait un peu long, mais ça valait le coup quand même. Moi, j'avoue que c'est une des scènes du cinéma qui m'a le plus marqué. Quel commentaire vous en feriez dans une émission comme Vivante Église, Paul Divin?
Alors, c'est une séquence qui est difficile à comprendre quand on n'a que la bande-son, parce qu'on ne sait pas d'où partent les coups. Et la force de cette séquence-là, c'est que Kowalski, pour dénouer la situation, vient au devant du gang. On ne sait pas s'il est armé ou pas armé. Et il y a en face tout le gang qui est avec tout son arsenal. Et il porte un moment la main à sa poche. Et il croit qu'évidemment, il va dégainer et tirer. Et à ce moment-là, en public, ils le descendent, on entend toutes les rafales, etc. Et tout le monde est aux fenêtres. Et ce qui va permettre de les arrêter. C'est-à-dire que là, Kowalski vient au devant de ceux dont il sait qu'ils vont le tuer, mais en même temps, leur violence va se retourner contre eux, c'est-à-dire qu'il donne sa vie, pour parler très très clairement. Il sait qu'il va se faire tuer. Mais il sait aussi que c'est ce qui va permettre de les arrêter et de les condamner. Parce qu'autrement, ils font toujours leur coup en douce et il n'y a jamais moyen de les prendre.
Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Donc c'est Gran Torino, film de Clint Eastwood. C'est un film qu'il faut absolument avoir dans sa bibliothèque, même s'il ne faut peut-être pas le montrer à des enfants de 8-12 ans. Pas seulement à cause du vocabulaire, n'est-ce pas ? On va faire une deuxième pause musicale qui va nous introduire au dernier film, puisque c'est la bande-annonce du film. Enfin,
c'est la
bande originale du film Mission, dont on va parler à la fin de cette émission.
Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église, ce matin, si vous nous prenez par hasard en cours de route, le grand écran de Vivante Église avec autour du plateau Louis-Marie Soler, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse sur notre antenne, et Paul Dima, co-animateur de Ciné-Parole, ce ciné-club au cinéma L'ABC. L'ABC n'est pas partenaire de cette émission, mais Ciné-Parole, oui. Alors, le film Mission, je vais vous donner la parole parce que on va laisser les maîtres parler pour un film vraiment immense. Roland Joffé, c'est donc le nom de son réalisateur. Ce film sorti en 1986. Allez, c'est vous qui allez nous raconter l'intrigue cette fois, Louis-Marie. Vous y collez.
On est au milieu du XVIIIe siècle. L'Empire espagnol s'étend jusqu'en Amérique du Sud. Et le frère Gabriel, hein, je ne sais plus, hein, dites-nous Emmanuel.
Frère Gabriel, père frère, Gabriel.
Frère Gabriel.
Je crois qu'il est les deux.
Qui est jésuite et idéaliste de surcroît, fonde une communauté pacifiste chez les Indiens Guarani. Et il va être rejoint par un mercenaire qui va venir expier une faute. La faute, c'est d'avoir tué son frère accidentellement.
Et puis, c'était un marchand d'esclaves.
Oui, aussi, mais la faute la plus lourde qu'il vient d'expier, c'est pas parce qu'il a vendu des esclaves, c'est parce qu'il a tué son frère. Il aurait pu le faire avant, effectivement, mais c'est parce qu'il a tué son jeune frère. Et il est repenti, en tout cas, il n'est plus marchand d'esclaves. Et donc, mais quelques années plus tard, donc on est au milieu donc du XVIIIe siècle, l'Espagne a décidé du sort des missions jésuites. Elles doivent disparaître, puisqu'en fait, l'Espagne et le Portugal ils ont divisé, partagé, l'Amérique du Sud. Voilà, leur zone d'influence. Ouais.
Et donc, il y a un cardinal Altamirano qui est en visite apostolique, donc légat du pape, si j'ai bien compris, qui, en fait, sert de, je sais pas, un peu de fil conducteur dans l'intrigue, mais en tout cas, voilà, il arrive là-bas, les décisions ont été prises, et pourtant, il se laisse bouleverser par cette histoire. C'est, je sais pas, qu'est-ce que vous diriez ? Pourquoi est-ce que c'est un chef-d'œuvre pour vous, Paul Dima ?
Ce film est un chef-d'œuvre par la force de son récit épique, la beauté des images, la force du scénario aussi et des personnages principaux. Vous citiez le légat du pape, c'est très intéressant aussi la position dans laquelle il est. La décision a été prise avant toute visite sur le terrain, c'est un accord entre États et l'Église est chargée de le faire appliquer. Voilà, c'est une puissance parmi les autres. Et ce légat du pape, en même temps, sur place, il voit bien le décalage complet avec la décision qui a été prise en Europe pour un accord politique qui dessert complètement ce qu'il voit sur le terrain. Et donc, il va être obligé de faire appliquer un accord avec lequel il n'est pas d'accord.
Parce que donc ce frère Gabriel, joué par Jeremy Irons, donc, est allé au fin fond de l'Amazonie, donc à la rencontre de cette tribu indienne, et a noué une relation là-bas avec eux, et a créé une espèce de village chrétien. On ne sait pas s'ils sont convertis, mais en tout cas un certain nombre, semble-t-il, ont embrassé la foi chrétienne.
On peut le penser.
Et c'est une société paisible, pacifiste, c'est extraordinaire. Alors il y a beaucoup de choses à dire, mais je vous propose juste qu'on écoute un premier extrait. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, donc il va falloir être attentif. C'est donc quand Rodrigo Mendoza, hanté par l'acte qu'il a commis et que vous avez cité, Louis-Marie Soler, s'inflige en fait une longue pénitence en allant jusque dans cette tribu au fin fond de l'Amazonie, en traînant son armure, et jusqu'à l'arrivée dans ce village Guarani. Voilà, donc il faut deviner ce qui se passe. Mais donc il arrive au village, il traîne son armure et il y a un instant d'hésitation quand il arrive au village. On se demande si en fait il va être tué par par ces Guarani, et en fait il s'avance et il le libère de son fardeau et cet homme s'écroule et il vit une forme de conversion. Il y a quelque chose, je sais pas, quand on est chrétien, Louis-Marie Soler, vous qui êtes animateur cinéma au Cotopaïs, il y a une espèce de... C'est presque, ça ressemble presque à... au jugement, enfin, ce qu'on imagine peut-être, nous, le moment où on fera face à Dieu, en fait, il y a un mélange comme ça, enfin, extraordinaire dans cette scène.
Tout à fait, la dynamique dans laquelle il est engagé, c'était de s'auto-absoudre d'une certaine façon par l'expiation personnelle. Et entraînant son armure qui symbolise donc sa force, sa puissance, etc. Et qui lui avait permis, avec laquelle il avait tué. Mais en arrivant dans ce village, village Guarani, je vais y arriver, il y a quelque chose qui le dépasse et le déborde. Et c'est là où il se met à pleurer, c'est que les Guarani le libèrent de cette auto-rédemption-punition, ou punition-rédemption. Ça lui est donné. Et là, il découvre ce que peut être la grâce, d'une certaine façon. Il ne se sauve pas lui-même à la force du poignet et par la dureté de la pénitence qu'il s'inflige, mais parce que d'autres le libèrent de son fardeau. Et là, il touche à sa faiblesse et il est pris à contre-pied du mouvement dans lequel il était. Ça lui est donné.
On a l'impression que c'est quelque chose qu'il n'imagine pas. Et puis il y a tous ces rires d'enfant aussi, quelque part, derrière, oui. Une espèce d'innocence qui est...
C'est ça. C'est ceux qu'il considérait comme des petits, des faibles et tout, qu'il libère de cet enfermement d'auto-expiation, mais dans la toute-puissance toujours. J'ai tué et je dois, par le supplice, entre guillemets, que je m'inflige, être libéré de ce qui me pèse.
Alors, je propose qu'on écoute un deuxième extrait, et puis après, on finira de commenter autour de ce film.
Seigneur, bénissez le repas que nous allons prendre. Amen. Oh, oh Seigneur. Vous avez préparé ce plat.
Oui.
Et vous y avez mis tous les piments.
C'est bien ce que j'ai fait, oui. Je suis navré, je connais mieux les arts guerriers que les arts culinaires.
Je vous l'accorde.
C'est affreux.
Mais le pain est bon.
Oui, le pain est passable.
Merci, mon père, de m'avoir accueilli ici.
Remerciez les Guarani.
Comment ?
Lisez ce livre.
Si je possède la foi qui soulève les montagnes, et point l'amour, je ne suis rien. Et si je consacre tous mes biens à la nourriture des pauvres, et si je donne mon corps à brûler, mais que je n'ai point d'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, et il est bon. L'amour n'en vit pas. L'amour ne vante pas ses propres mérites. Il ne s'enfle pas d'orgueil.
Voilà, donc deuxième extrait, on va dire qui introduit peut-être la deuxième partie du film, où après c'est ce qui se vit dans cette colonie. Mais non, c'est pas une colonie, c'est dans ce havre de paix chrétien. Alors, je sais pas, il y avait beaucoup de choses à dire, mais je vais vous laisser tout simplement peut-être nous dire, Louis-Marie, vous, pourquoi vous pensez que c'est un film qui est au panthéon du cinéma ?
Il est au panthéon du cinéma parce qu'il réalise, c'est un film qui a tout, qui a un scénario parfaitement écrit, inspiré d'un récit authentique, et comme le veut la coutume, le scénario s'en détache un peu pour augmenter ses points de rencontre et la tension entre ces deux personnages, parce que finalement le film tourne autour du frère Gabriel et de Mendoza, l'ancien mercenaire converti, parce que c'est un film commercial et ambitieux à la fois. C'est ces films qui amènent à eux tous les publics, qui font l'unanimité. Ce film en fait partie. Et puis pour la photographie, les images sont sublimes. Les acteurs sont parfaits. Jeremy Irons, qui joue le rôle du frère Gabriel, est extraordinaire. De Niro évidemment, tout en arrogance quand il est encore mercenaire et qui est dans la repentance après, quand il est auprès des Guarani. Tout est bien dans ce film. C'est jaugé de façon parfaite. C'est équilibré.
Peut-être le mot de la fin, Paul Dima. Est-ce que c'est un film, je sais pas, quand on n'est pas chrétien, qu'on se pose des questions, qui peut mettre vraiment en chemin ? Alors peut-être autant que Gran Torino, mais qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet ?
Je crois qu'il peut mettre en chemin même les chrétiens. C'est un peu provocant de dire comme ça.
Ça ne m'étonne pas de vous.
C'est-à-dire que derrière la plaisanterie, si c'en est une, je crois que ça touche tout être humain. Cette histoire qui, effectivement, concerne aussi les chrétiens est valable pour tout un chacun. C'est-à-dire que la transformation qui se passe dans le personnage, là, et qu'on va voir aussi dans l'ensemble de l'histoire, c'est comment s'ouvrir à une paix qui est donnée, à un abandon de soi, dans sortir de la volonté de toute puissance et tout. Les chrétiens comme les autres sont confrontés à cette question-là. Alors ils trouvent dans leur tradition, les chrétiens dans leur tradition chrétienne, une réponse éminente en la personne du Christ. Mais je veux dire que là, tout homme peut être interrogé par cette figure. Elle n'est pas réservée aux chrétiens et les chrétiens n'ont pas le monopole de la réponse. Et ce film parle de ça.
Voilà, donc si ces commentaires, pertinents vous ont inspiré, rendez-vous au Ciné-Parole. Du cinéma l'ABC, mais on vous donne pas de date cette fois, vous irez sur le site internet de Radio Présence, on l'annoncera dans la rubrique Église Actualité, début janvier. On vous donne rendez-vous en tout cas le mois prochain. Merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église, c'est toujours un plaisir et un bonheur de parler cinéma et bien plus avec vous. Merci beaucoup, cette émission a été réalisée par Kevin Boudouel, vous pouvez la réécouter ce soir à 21h, ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi. Thank you.